Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, entre 18h20 et 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, jusqu'où sommes-nous prêts à limiter nos libertés dans le cadre de la pandémie de coronavirus? Comme lors des précédentes épidémies, les gouvernements et institutions internationales tentent de ménager les libertés publiques tout en maîtrisant l'ampleur de l'épidémie en cours. Comment restreindre les conditions de circulation et de déplacement des citoyens? Interdire la tenue des grandes manifestations publiques? Obliger celles et ceux qui travaillent à rester chez eux? Fermer les écoles et les universités sans pour autant porter atteinte aux droits fondamentaux? Depuis deux mois maintenant, chaque pays, en fonction de ses traditions juridiques propres, improvise des réponses à ces questions essentielles, tandis que, comme le dit la philosophe Corinne Pelluchon dans le journal Le Temps, le journal suisse Le Temps, ce virus nous rappelle que la santé est la condition première de la liberté. Nous en débattons ce soir en compagnie de William Dab. Bonsoir William Dab.
Bonsoir.
Vous êtes médecin épidémiologiste, ancien directeur de la santé et professeur titulaire de la chaire d'hygiène et sécurité au CNAM. Guillaume Leblanc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'université de Paris Diderot et spécialiste des questions d'éthique. Olga Mahmoudi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit public à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France et vous avez co-dirigé autour de l'état d'urgence français, c'était chez Dalloz, il y a deux ans, en 2018. Et enfin, Antoine Flao est au téléphone avec nous depuis la Suisse. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin de santé publique, spécialiste des épidémies et directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève.
L'Union européenne n'a pas su prendre les précautions et les restrictions nécessaires, notamment pour limiter les voyages en provenance de Chine et d'autres lieux. Après avoir consulté nos autorités sanitaires les plus hautes, j'ai décidé de prendre plusieurs mesures fortes mais nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains. Pour empêcher que de nouveaux cas pénètrent sur notre territoire, nous allons suspendre tous les voyages en provenance d'Europe à destination des États-Unis pour les 30 prochains jours. Cette règle prendra effet ce vendredi à minuit. Ces restrictions seront aménagées en fonction de la situation sur le terrain.
Voilà, vous l'avez reconnu, il s'agit de Donald Trump. C'était cette nuit, William Dab, on dit, voici ce que dit le président des États-Unis, protéger la santé et le bien-être des Américains. Et cela justifie justement des décisions très fortes en matière de liberté ou non de circulation à travers le monde. Cela fait partie des initiatives ou des prérogatives d'un président que de réfléchir à comment limiter les libertés pour pouvoir éviter à une épidémie de se propager.
On peut dire en introduction de ce débat, on peut cadrer la notion de sécurité sanitaire, qui renvoie à l'idée qu'il y a des risques pour la santé dont on ne peut pas se protéger tout seul, et qui demande un effort organisé de la société. Alors, historiquement, le tournant, c'est au XVe siècle, la quarantaine, pas seulement à Venise, mais l'histoire a surtout retenu Venise, donc c'est une des premières fois en Europe qu'on reconnaît qu'il faut contraindre la liberté individuelle pour protéger le groupe. Et on fonde ainsi la notion de police sanitaire. Mmh. En ce qui concerne la décision du président des États-Unis, bon, elle lui appartient. Je pense qu'il a absolument pas compris ce que c'est que cette épidémie, qu'il fait croire au peuple américain que le mal vient de l'étranger, alors que le virus circule partout aux États-Unis, et il commet une erreur gravissime, parce que ce faisant, il dissuade les Américains de respecter les mesures barrières de base, en disant « le virus n'a plus le droit d'entrer sur le territoire, je n'ai plus de problème ». Je pense que les Américains vont payer très cher cette erreur.
Antoine Flao, qu'est-ce que vous pensez à la fois de cette décision, donc la plus récente, en attendant celle peut-être qui va être annoncée tout à l'heure par le président français dans son allocution à 20h. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision donc de santé publique, pourrait-on dire, ou en tout cas de gouvernement, qui a été prise par le président américain dans ce cadre qui vient d'être décrit à l'instant même par William Dab?
Je pense que les gouvernants sont très démunis aujourd'hui parce que on souffre d'une absence de recommandations internationales qui pourraient être édictées par l'Organisation mondiale de la santé, mais qui ne le fait pas, pour dire ce qu'il faut faire, à quel moment. En fait, il n'y a pas beaucoup de mesures dans le, je dirais, l'éventail des possibles. Il n'y a pas beaucoup de mesures qui ont fait la preuve de leur efficacité et qui peuvent être mises en œuvre, mobilisées au cours de cette pandémie pour essayer d'en réduire l'impact. Vous les avez très bien citées, il y a la fermeture des écoles, la restriction des rassemblements, les mises éventuelles en quarantaine de certains foyers, et puis la restriction des mouvements. Tout cela contribue à augmenter la distance sociale entre les individus potentiellement infectés et les individus qui sont toujours sains. En soi, appliquer une mesure ou une autre à tel ou tel moment, eh bien, fait partie de la panoplie. Donc moi, je n'ai pas de critique sur l'idée de faire la restriction des mouvements, mais simplement, personne n'a jamais dit à aucun des gouvernants, voilà nos recommandations, alors qu'il y a une urgence de santé publique de portée internationale, l'Organisation mondiale de la santé a l'instrument pour véritablement promulguer des recommandations. Elles ne sont pas contraignantes, les États peuvent les enfreindre, elles n'arrêtent pas de le faire d'ailleurs, on a vu déjà au début, mais il n'y a pas de recommandation aujourd'hui qui dit quand et sur quels critères il faut faire promulguer ces mesures. L'Italie a fait ce qu'elle a pu, la Corée a fait ce qu'elle a pu, la Chine a commencé avant tout le monde.
Ce qui explique que chaque pays, d'une certaine façon, a regagné son autonomie par rapport justement à ces questions, puisque les traditions sanitaires de chacun des pays se sont exprimées, comme on l'a déjà expliqué dans une émission précédente du temps du débat, se sont exprimées, les Chinois dans un certain sens, les Coréens dans un autre sens, les Italiens, les Allemands, les Suisses ou les Français, d'une certaine façon. C'est ce que vous voulez dire, Antoine Flahaut?
Oui, ça explique quelque part une cacophonie, je dirais presque attendue, puisqu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recommandations, on va dire. Ce n'est pas tellement d'ailleurs que les pays ont repris leur autonomie. Jamais l'Organisation mondiale de la santé n'enlève l'autonomie de quiconque.
Non, bien sûr.
C'est pas supranational comme organisation, c'est international. Donc ils peuvent juste, d'ailleurs, dans le règlement sanitaire international, la seule chose qu'on offre comme possibilité au directeur général de l'OMS, c'est de faire des recommandations. C'est ce terme qui est utilisé. Ça n'est pas très très contraignant. Si on veut pas les appliquer, on n'est pas obligé. Mais si on nous disait à tel critère, à tel niveau d'épidémie, vous devez fermer les écoles, ben les pays seraient libres de le faire ou pas, mais au moins ils auraient des guidances qu'ils n'ont pas.
Guillaume Leblanc, et puis ensuite Olga Mahmoudi.
Oui, ce qui est frappant ici, c'est cette espèce de renationalisation des virus et de réponse le virus par définition. Là, c'est très intéressant de voir comment on a parlé dans l'histoire de grippe espagnole, de grippe asiatique, de grippe chinoise, de coronavirus chinois, etc. On a l'impression qu'il faut absolument nationaliser le virus pour lui donner une source nationale contre laquelle ensuite lutter dans un discours d'invasion.
Il faut d'ailleurs dire que récemment, le gouvernement chinois a réécrit d'une certaine façon la naissance de ce virus, puisqu'il considère que c'est une importation ou que ça n'est pas né sur son propre territoire.
Complètement. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que le discours qui se met en place, qui est un discours de guerre contre le virus, devient un discours de guerre nationale, avec une absence totale, là je rejoins ce qui a été dit, une absence totale de réponse à un niveau international, voire à un niveau européen. Et naturellement, le discours de Trump, il est complètement sidérant, mais au moins il a un point positif, c'est qu'il met l'accent sur l'Europe. Or, aujourd'hui, d'Europe sanitaire, justement, pour répondre à des questions
de sécurité sanitaire... Vous voulez dire qu'il va peut-être créer une Europe sanitaire disant que tous les Européens sont de la même manière.
Envisager que la question pourrait être européenne, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une espèce de panique, effectivement, d'État. On parle de raison d'État, mais on est dans une panique d'État. Et on a l'impression que chaque État essaie de répondre à cette panique comme il peut.
Olga Mahmoudi, vous êtes professeur de droit public. Vous avez travaillé sur la question de l'état d'urgence. On a dit, c'était cet après-midi, qu'il y a une sorte de panique qui a commencé à monter dans les rédactions autour de la possibilité soit de l'usage de l'état d'urgence, soit de la suppression des élections municipales d'ici 3 jours, soit peut-être même, certains ont dit, l'article 16 de la Constitution qui donne les pleins pouvoirs au président de la République. Qu'est-ce que vous pensez de ces questions-là? Est-ce que vous pensez qu'on s'agite pour pas grand-chose? On le saura d'ici 1h30 maintenant, à partir de la déclaration du président Macron à 20h. Mais néanmoins, est-ce que ces questions-là sont envisageables ou est-ce que c'est une sorte de fantasme?
Alors, il faut toujours être prudent dans la prédiction juridique, je pense, et je ne suis pas la seule à le penser parmi les juristes avertis de cette question, que le recours à l'état d'urgence n'aurait absolument aucune utilité, puisqu'on a toutes les mesures dans le droit commun, en particulier dans le code de la santé publique, pour faire face à cette menace sanitaire grave. Quant au recours à l'article 16, je crois qu'aucune des conditions de recours à cet article n'est remplie, puisque le fonctionnement régulé des pouvoirs publics n'est pas menacé. Sur la question du report des élections, il y a en réalité des difficultés pour organiser un report dès ce soir, puisqu'il faut voter une loi qui soit votée d'ici vendredi, ou alors éventuellement faire un report par décret en Conseil des ministres, mais avec une légalité un petit peu douteuse de ce type de procédé. Voilà. Donc je pense que tout ceci procède d'une panique juridique qui n'est pas raisonnable.
Alors, cette panique, vous l'avez connue, William Dab, à d'autres moments. Vous avez géré, par exemple, la question du SRAS auparavant. Est-ce que vous avez vu des dirigeants qui se posaient ce type de questions, c'est-à-dire jusqu'où limiter les libertés publiques, jusqu'où a-t-on le droit d'aller? J'imagine que ce sont des questions que vous vous êtes posées lorsque vous étiez, par exemple, directeur de la santé.
Non seulement ce sont des questions qu'on s'est posées, mais ce sont des questions auxquelles nous avons été directement confrontés. Un des patients français, contaminé au Vietnam, hospitalisé à l'hôpital de Besançon, qui allait très bien, a quitté l'hôpital en disant qu'il ne voyait pas pourquoi on le maintenait confiné. Le préfet est contacté pour le mettre en isolement, et le préfet nous demande, à juste titre, sur quelle base juridique il peut contraindre la liberté de cet homme. Et en vérité, à l'époque, dans le code de la santé publique, il n'y en avait pas. Nous l'avons introduit dans la loi de santé publique de 2004, et je confirme ce que dit ma collègue aujourd'hui, nous avons ce type d'instrument. Je peux aussi vous dire brièvement que on était en train de gérer cet épisode-là quand nous avons reçu avec le ministre, la ministre de la Santé de Chine, pays qui était très atteint par le SRAS. Mmh. Et le ministre lui a posé la question de savoir comment il ferait en Chine dans un cas comme ça. La ministre a répondu, nous appliquerions la loi. Et alors, un petit peu après, on lui a dit « Mais en fait, la loi, c'est quoi ?» Et elle a répondu « La peine de mort. »
C'est clair. Enfin, c'est clair, c'est tranchant comme réponse. Et justement, cela pose des questions éthiques, pourrait-on dire, dans lesquelles vous êtes versé, Guillaume Leblanc, en tant que professeur de philosophie. On cite, par exemple, dans l'avis du numéro 106 du Comité consultatif national d'éthique, c'était en 2009, justement, après ces épidémies. On cite cette phrase de Montesquieu, « La France est un état de droit », dit cet avis, « mais selon les termes de Montesquieu, il y a des cas où il faut mettre pour un moment un voile sur la liberté comme l'on cache les statues des dieux. » Qu'est-ce que vous en pensez, justement ?
Toute la question, c'est de savoir jusqu'où aller dans cette limitation des libertés, à quel moment le décider et qu'est-ce qui le légitime. C'est vrai que actuellement se déploie un peu sur un certain nombre de réseaux, etc., une thèse un peu d'allure, je dirais, complotiste ou catastrophiste, hein, par exemple, inspirée notamment de certains travaux d'Agamben et d'un texte d'Agamben sur l'état d'exception.
Giorgio Agamben.
Voilà, du philosophe italien, qui explique que finalement, en gros, après les mesures d'état d'urgence, d'exception liées au terrorisme, on aurait épuisé les palettes de ces mesures, et là on trouverait avec le coronavirus un deuxième élan pour restreindre à nouveau un certain nombre de libertés.
C'est ce qu'il dit. Tout d'abord, on constate une fois de plus une tendance croissante à utiliser l'état d'exception comme paradigme normal du gouvernement. Le décret-loi immédiatement approuvé par le gouvernement pour des raisons de santé et de sécurité publique entraîne une véritable militarisation des municipalités, des zones où il a été contrôlé positive au moins une personne dont la source de transmission est inconnue et dont le cas n'est pas imputable à une personne provenant d'une zone déjà infectée par le virus. Voici ce que dit Agamben dans ce texte.
Alors je pense que par rapport à cette thèse un peu complotiste qui est par ailleurs qui développe des éléments très intéressants, je pense qu'en réalité ce qui est mis en avant, c'est au fond qu'il y aurait encore une stratégie gouvernementale qui se déploierait à l'occasion du virus, comme elle s'est déployée à l'occasion du terrorisme, ce qui induirait in fine l'idée qu'il y aurait une raison d'État encore à l'œuvre. Moi, je crois beaucoup plus qu'en fait, on est dans un moment un peu inédit. En tout cas, on est dans un moment de panique d'État. J'ai développé cette idée tout à l'heure, dans lequel, au fond, il s'agit de faire face effectivement à un événement qui touche la vie, qui touche la vie populationnelle. Et donc, pour en revenir aux thèses de Michel Foucault sur la biopolitique, qui expliquait que finalement, la biopolitique, c'est le moment dans lequel un certain nombre de traits biologiques qui affectent une population deviennent l'élément sur lequel la politique va devoir agir, je crois qu'on est exactement dans ce moment biopolitique. Le paradoxe, c'est que à cette lecture biopolitique, on est en train de réintroduire les bonnes vieilles tactiques de contrôle, d'exclusion, de discipline, la mise en quarantaine. Effectivement, ce moment disciplinaire pour répondre à cette question laisse de côté la problématique des libertés.
Olga Mahmoudi et puis Antoine Flao au téléphone. Olga Mahmoudi.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'on sort quand même de périodes d'application du droit d'exception, où en réalité, à la suite de ces périodes, on nous a fait croire qu'on sortait des périodes d'exception et les régimes d'exception ont été transcrits pour une
dans
bonne part dans le droit commun. Donc, il y a une forme d'accoutumance aussi aux restrictions des libertés. Alors, quand ça touche les personnes soupçonnés de terrorisme ou soupçonnés d'être même en lien très lointain avec le terrorisme, bon, c'est une question qui n'inquiète pas tellement, en tout cas pas énormément de personnes, mais quand ça peut toucher tout un chacun, je pense que là, il va y avoir peut-être, et je l'espère, une prise de conscience de ce qu'on peut faire avec des législations restrictives des libertés. Et le gouvernement est en train de rendre définitives les dispositions de la loi SILT, donc de novembre 2017, qui était censée être appliquée jusqu'en décembre 2020 et qui vont être... il y a plus de clauses temporaires, voilà, ça va être fini. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est en train
d'être. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette loi SILT, justement ?
Bien, dans la loi SILT, on a donc c'est une loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme de novembre 2007, prise pour sortir de l'état d'urgence, mais qui en réalité nous a permis de rester dedans en grande partie. Et donc, il y a un certain nombre de mesures, en particulier des visites domiciliaires, donc qui sont les perquisitions, et puis des mesures de surveillance individuelle qu'on appelle les MICAS, donc qui sont assimilables à des assignations à résidence, donc qui ont été, qui sont des mesures de police administrative, qui s'exercent sans aucun procès pénal, donc il n'y a pas d'infraction, pas de délit, pas de crime qui fondent ces mesures. Eh bien, elles sont passées dans une loi de lutte contre le terrorisme et elles étaient prévues jusque fin décembre 2020 et elles sont en train d'intégrer totalement le droit commun, c'est-à-dire durablement, sans limite temporaire.
Antoine Flao, vous regardez ça depuis la Suisse où vous êtes directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit autour de cette table et en particulier sur cette question de cette mise au pas des libertés? Est-ce que vous pensez que dans un contexte comme celui-ci de crise généralisée et surtout de crise mondiale, il ne faut pas justement mettre au pas certaines libertés momentanément?
Je suis assez incompétent et donc je suis plutôt le débat avec beaucoup d'intérêt. J'apprends beaucoup de choses parce que c'est vraiment pas ma discipline. Je pense en effet que c'est tout ce qui a été dit était vraiment très très intéressant sur le sujet. Ce que je sais, c'est que l'épidémiologie, qui est elle ma discipline, a beaucoup emprunté à la terminologie militaire. Donc vous parliez de police, d'armée, de vision un peu militaire de la situation. situation. Mmh. En réalité, les mots qu'on utilise, alerte, ça vient de l'italien primitif qui disait alerta, ça voulait dire au créneau. Hein. Alarme, c'est alarme aux armes, citoyens. On parle du front de l'épidémie. On a un vocabulaire, on parle des campagnes de dépistage ou de vaccination. Donc on a tout
votre collègue William Dab en profite pour pouvoir opiner du bonnet à ce que vous dites, à l'instant même.
Oui, oui, et voilà, William connaît ça très très bien. Et en fait, on a, le fait est, face à ce type de situation, la nécessité de recourir à ce type de contraintes qui sont liberticides, je pense qu'il faut en avoir une grande conscience, et qui sont proposées parce que aujourd'hui on a des bons niveaux de preuves scientifiques qu'elles sont efficaces. J'aime beaucoup l'expérience qui a été rapportée dans un journal américain qui s'appelle le JAMA, qui est un très bon journal scientifique et médical, et à propos de ce qui s'est passé en 1918 pour la grande pandémie de grippe dont
espagnole.
On a parlé tout à l'heure,
qu'on avait appelé la grippe espagnole
à tort. C'est intéressant parce que vous pourriez dire, mais c'est très ancien, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience? Mais en réalité, on est finalement pas très loin de ce qui s'est passé en 1918, parce qu'en 1918, c'était de la grippe, mais on n'avait ni vaccin, ni antiviral. Ici, c'est pas de la grippe, c'est du coronavirus, on n'a ni vaccin, ni antiviral. Et ce qu'ont appliqué les Américains, à l'époque, c'était ces mesures dont on parle, ces mesures de distance sociale, fermeture des écoles, etc. Et ce que l'on a pu voir, c'est que les villes des États-Unis, parce que c'est beaucoup plus fédéral qu'en France, c'est un peu comme en Suisse, chacun fait un peu ce qu'il veut. Hein. Mm-hmm. Et donc les villes des États-Unis qui avaient appliqué très tôt et très longtemps, on montre par exemple que la ville de Saint-Louis avait appliqué pendant 150 jours, la fermeture des écoles, l'interdiction de se rassembler, y compris dans les saloons et les bars, etc., pendant 150 jours, près de 6 mois, a eu une mortalité qui était de l'ordre de 350 pour 100 000 habitants, alors que la ville de Pittsburgh, elle qui avait été beaucoup plus libérale et laxiste, n'a appliqué ces mesures, les a quand même un peu appliquées, une cinquantaine de jours, a eu des taux de 850, c'est-à-dire pour 100 000 au lieu de 300. Donc c'est considérablement efficace sur la mortalité, qui sont des critères très lourds, très durs. Appliquer ces mesures a un intérêt, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on les propose, parce que l'on sait qu'il peut y avoir une efficacité extrêmement importante pour la santé publique.
On peut d'ailleurs avoir d'autres mesures qui sont appliquées par exemple en Chine, comme dans cette Chine en guerre contre le coronavirus, un reportage de BFM qui a été diffusé le 7 mars.
Il est interdit de chasser et de manger des animaux sauvages. Les aliments doivent être bien cuits avant d'être consommés. Partout, des mégaphones rappellent les règles à suivre. Dans ce pays en pointe dans les nouvelles technologies de surveillance, des caméras à reconnaissance faciale scannent et enregistrent la température de milliers et de milliers de citoyens.
Le robot peut prendre la température de 10 personnes simultanément. Quand il trouve une température anormale, il prend une photo en haute définition de cette personne.
France Culture.
Et gare à ceux qui ne respectent pas les recommandations sanitaires.
Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
La réponse des autorités se fait sans ménagement. Des policiers les extraient de force et les emmènent pour les interroger.
Voilà, vous êtes dans le temps du débat, un débat sur la question de la façon dont nous sommes prêts ou non à limiter nos libertés dans le cadre de cette épidémie de coronavirus. William Dab, évidemment, j'ai commencé tout à l'heure avec le président américain, maintenant je continue avec la Chine, d'une certaine façon de pays qui nous servent de miroir ou de repoussoir selon que l'on se place d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, et qui nous disent nous ne sommes pas comme eux, nous n'avons pas le même régime. Et pourtant, effectivement, il faut réfléchir en termes mondial et donc en termes de surveillance des populations, de la capacité de contrôler ces épidémies. Qu'est-ce que ça nous dit justement cet exemple ou ce contre-exemple chinois justement de ce qu'il faut faire en cas d'épidémie?
Les épidémies, pour moi, c'est une sorte de crash test des valeurs de notre société et de la valeur qu'on accorde à la santé. Quand on fait des petits... Un calcul rapide, peut-être que Antoine a fait le même, il nous le dira.
Antoine Flahaut.
Bon, les données que l'on a à partir de la Chine, c'est que chaque personne porteuse du virus en contamine entre 2 et 3 en moyenne. Quand on regarde les données qui nous viennent de la province de Hubei aujourd'hui, les Chinois ont ramené cet indicateur à 0,3. Donc dès que cet indicateur est inférieur à 1, il est évident que l'épidémie régresse. Bon. Donc les mesures prises notamment à Wuhan ont l'efficacité qui était attendue. Moi, je suis un avocat de la santé publique, mais je ne pense pas qu'on doit faire que tout est légitime au nom de la santé publique. Il y a d'autres intérêts qui peuvent heurter. Il y a les intérêts juridiques, il y a les valeurs juridiques, il y a les intérêts économiques. Il ne faut pas opposer d'ailleurs aux intérêts de santé publique. Donc chaque société, je dirais, a une sorte de centre de gravité à trouver dans cet équilibre entre liberté et sécurité. Le problème que nous avons en France, me semble-t-il, c'est que par le passé, dans un passé récent, il y a eu de très nombreuses affaires où, à l'évidence, les intérêts de santé publique ont été négligés.
Quels exemples, par exemple ?
L'amiante, 100 000 morts, le Mediator, la transmission transfusionnelle du sida. Donc c'est autant de défaites de
santé publique.
De santé publique. Et ça, à chaque fois, c'est sanctionné politiquement et éventuellement juridiquement. On a envoyé des ministres et un ancien Premier ministre devant une juridiction. Donc, voilà, il y a ce centre de gravité à trouver, mais nous sommes ici dans un pays où s'il y a un niveau de mortalité évitable trop élevé, il y aura un sentiment d'indignation énorme. Est-ce que ça autorise une restriction massive des libertés ? Ça demande restriction. Je n'y suis pas personnellement favorable. On peut aussi faire appel à la responsabilité individuelle, mais il y a un équilibre à trouver.
Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue philosophe Corinne Pelluchon, que je citais en ouverture de cette émission, qui disait dans Le Temps, au journal suisse, et disait la santé est la condition première de la liberté.
Oui, alors justement, j'allais faire le lien avec cette phrase de Corinne Pelluchon. Je dirais qu'il y a un lien, effectivement, entre santé et liberté. La santé, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, la santé n'est pas qu'une valeur de santé publique, c'est aussi une valeur existentielle, c'est aussi d'attacher du prix à des valeurs, c'est valere en latin, attacher une valeur à des valeurs, au fond, c'est ce sentiment de se bien se porter qui inclut donc la possibilité de se déplacer, la possibilité d'être donc le sentiment d'être libre. Donc il y a d'emblée quelque chose qui a à voir entre le lien très fort entre la santé et la liberté. Est-ce que, pour revenir à ce qui a été énoncé dans le reportage, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que Foucault avait dit dès 1978 dans son fameux cours au Collège de France Sécurité, Territoire, Population. Je le cite, l'ensemble, lorsqu'il prévoit l'extension des dispositifs de sécurité, il dit l'ensemble des mesures législatives, des décrets, des règlements, des circulaires qui permettent d'implanter des mécanismes de sécurité, cet ensemble est de plus en plus gigantesque. Et j'aurais presque envie de dire
C'était l'année précédente, Sécurité et Liberté,
exactement.
La loi Perfit.
Et j'aurais presque envie de dire que c'est l'âge 1 de ces mécanismes, parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme le reportage le montre, on est passé des circulaires, etc., on a greffé les circulaires à des dispositifs techniques qui permettent justement à ces dispositifs de sécurité de prendre une valeur disproportionnée, en tout cas une valeur très forte. Le risque, en tout cas philosophique, c'est que la culture de la liberté dont vous avez parlé tout à l'heure très justement, ce sentiment de la liberté disparaisse peu à peu comme valeur à protéger, justement.
William Nam, très brièvement, avant de donner la parole à Olga Mahmoudi.
Je vais juste rappeler que c'était 3 ans avant le début de l'épidémie de sida qui a tué Foucault.
Oui. Olga Mahmoudi, ces discussions entre philosophie, santé publique et droit, puisque vous avez toute votre place dans une discussion comme celle-ci, comment l'intégrez-vous dans le domaine du droit public, justement ?
Alors, on l'intègre de manière très simple, puisque je l'ai intégré dans le cadre de mon cours de droit administratif, pas plus tard qu'hier, à l'Université de Valenciennes, puisque le problème des mesures restrictives de liberté est un problème de police administrative relativement classique. Et donc, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'équilibre entre, finalement, santé publique, donc ça rentre dans l'ordre public.
La proportionnalité qui
liberté, c'est la grande question de la police administrative. C'est-à-dire, à quel titre est-ce qu'on limite, sur quel fondement, donc d'ordre public, est-ce qu'on limite les droits et libertés, et de quelle manière? Et il faut, dans le cadre d'une jurisprudence très classique du Conseil d'État, qui est maintenue, y compris en période de circonstances exceptionnelles, même si de manière un petit peu plus lâche, il faut que les mesures soient nécessaires, adaptées et proportionnées. Donc, pour ce qui est des mesures actuelles, donc les arrêtés préfectoraux dans le Morbihan, dans l'Oise et puis maintenant en Corse et dans la région de Montpellier, ainsi que les arrêtés ministériels donc pris par le ministre de la Santé, pour le moment, il ne me semble pas que...
Ils sont attentatoires aux libertés.
Mais ils sont attentatoires aux libertés, ouais. Puisque c'est la définition même d'une mesure de police administrative. Une mesure de police administrative porte atteinte aux libertés, y compris constitutionnellement.
Mais de manière
garantie.
Proportionnée, c'est ce que
mais,
je veux dire.
Ce sont à mon avis, la chose est proportionnée. C'est limité dans le temps, c'est limité géographiquement, en tout cas pour les arrêtés préfectoraux. Il me semble que ce sont des mesures de santé publique qui permettent de répondre, en tout cas dans le cadre du stade 2, la menace sanitaire grave liée au nouveau coronavirus.
Antoine Flahaut, vous avez la possibilité de voir ça de l'autre côté d'une frontière, c'est-à-dire du côté de Genève. Qu'est-ce que vous pensez? Comment cette comparaison que vous pouvez faire entre l'Italie toute proche, la Suisse, la France, vous interroge en tant qu'épidémiologiste, spécialiste de santé publique, justement, sur les différentes réponses que chaque pays utilise ou met en œuvre pour pouvoir protéger les libertés et en même temps empêcher la propagation de ce virus?
Oui, je pense que c'est encore un peu tôt pour en tirer des conséquences ou des conclusions, mais c'est vrai que se déroule sous nos yeux une sorte de quasi-expérience planétaire où, comme un essai randomisé dans la clinique pour évaluer les médicaments, où on aura presque de façon expérimentale la possibilité de comparer l'efficacité des politiques des uns et des autres.
C'est un pari que chaque gouvernement fait. Le gouvernement français ne testant pas tout le monde, contrairement au gouvernement italien ou d'autres gouvernements coréens, par exemple.
5000 contre 1000 pour les rassemblements. Et chacun applique un peu, comme il n'y a pas de recommandation, on revient un peu au point initial international, il n'y a pas de chef d'orchestre qui dit voilà la partition à suivre. Chacun applique des choses. Et il y a une sorte de petite tentation, ou de grande tentation autoritariste, et parfois de fascination par le succès chinois que l'on nous dit. Succès parce qu'on voit l'inflexion de la courbe. Tout ce qu'a dit William est tout à fait exact, hein, les chiffres sont là. Il faut quand même ne pas oublier que les Chinois le gouvernement chinois est parti très tard, assez tard. Il est parti, c'est le 23 janvier qu'ils ont instauré cet état, c'est-à-dire après deux mois de tergiversation, de déni. Ils ont empêché les lanceurs d'alerte de simplement communiquer entre eux avec des mouchards. L'atteinte aux libertés publiques était extrêmement violente. C'est un autre reportage, mais qui était sur la chaîne suisse de la télévision suisse romande, qui s'appelle Temps Présent, et qui montrait que les Chinois avaient utilisé des fers à souder. Oui, ils avaient utilisé des fers à souder pour fermer, murer, si vous voulez, les gens qui étaient en quarantaine pour pas qu'ils s'échappent. Enfin, des choses inimaginables de violence et d'atteinte aux libertés qui sont totalement inacceptables et qui ne se feront pas, à mon avis, dans les démocraties. On verra, en fin de compte, qui a été le plus efficace. Et moi, je partage assez l'avis qui peut paraître utopiste de William Dabb sur l'idée qu'une certaine mobilisation citoyenne, avec une sorte d'adhésion des citoyens par une sorte de pédagogie de la crise, d'échanges très, très pluriels, de débats très, très parfois durs, très, très controversés entre nous, entre les chercheurs, mais aussi avec les citoyens, mais aussi avec les politiques. Cela, à mon avis, va plutôt contribuer à être plus efficace qu'au contraire à être moins efficace. Mais c'est une hypothèse de travail.
Ouais, c'est ça, c'est une hypothèse. C'est du wishful thinking pour l'instant. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que beaucoup de gens ne se sentant pas malades, et peut-être le sommes-nous les uns ou les autres autour de cette table, n'ont pas l'impression de devoir avoir leur liberté contrainte, William Dab ou Guillaume Leblanc. Et donc, d'une certaine façon, ils disent « mais je ne suis pas malade, je n'ai pas de symptômes ». Et cette question asymptomatique pose une autre question, c'est-à-dire se déplacer alors qu'on ne se sent pas et on ne se pense pas malade. Est-ce que ça n'est pas une question importante pour protéger les autres, par exemple, William Dab, de limiter cette liberté de circulation pour des gens qui, pourtant, n'ont aucun symptôme?
Je crois que la valeur qui est en examen, c'est l'altruisme, fondamentalement. Est-ce que chacun est prêt à accepter un certain nombre de contraintes, même s'il ne se sent pas malade, pour protéger les autres? Cette tension, elle est permanente en santé publique et pas seulement pour le risque infectieux. On a eu ce débat au moment de la ceinture de sécurité, obligatoire. On a eu ce débat comme Madame Buzyn a rendu 7 ou 8 vaccins obligatoires.
Pour le tabac.
On a eu ce débat sur l'interdiction du tabac dans les lieux publics. Je pense qu'à chaque fois, et ce que disait Antoine Flahaut est très important, je suis partisan d'une délibération publique pour qu'on trouve l'équilibre et le centre de gravité dont je parlais tout à l'heure, et les retours d'expérience que nous ferons de cette pandémie mondiale permettront d'enrichir cette discussion.
C'est pour cela qu'il ne faut pas la suppression totale des libertés publiques, l'application peut-être de l'article 16, etc. Parce que dans ces cas-là, où serait justement la délibération publique, Guillaume Leblanc et Olga Mahmoudi?
Pour le moment, je pense qu'on est moins dans un test d'altruisme que dans un test d'individualisme. Parce que, au fond, le problème, c'est que précisément, chaque individu se fait son petit
cocktail
personnel à coup de peur, très souvent, beaucoup plus qu'à coup de discernement cognitif. Alors, c'est vrai que la peur, c'est une première forme de discernement cognitif. Il y a pire que la peur, c'est l'effroi. Dans l'effroi, on est suspendu. Dans la peur, on essaie de réagir à quelque chose, à un risque. Mais il manque, de mon point de vue, et ça touche effectivement ces grandes questions de santé publique que vous avez rappelées tout à l'heure, il manque, de mon point de vue, une appropriation vraiment critique, citoyenne.
Et de temps de délibération.
De ces questions fondamentales de santé, de soins. Quelle part aussi est-on aujourd'hui prêt à faire à tous ces systèmes de soins pour prendre soin de ces nouvelles formes de vulnérabilité?
Oui, Olga Mahmoudi. Oui,
je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, parce que même si l'article 16 était activé, bon, ce qui je l'espère n'arrivera pas, ou même si l'état d'urgence était mis en œuvre, ça n'équivaut jamais et absolument totalement à une suspension pure et simple des droits et libertés fondamentaux. De toute façon aussi, et même si notre système judiciaire à nous venait à être défaillant, il reste la protection européenne de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc même en cas de crise sanitaire, même en cas de guerre, même en cas, etc., ça ne veut pas dire suspension pure et simple de nos droits et libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion, le respect de la vie privée et la liberté de culte, qui sont, dans ces périodes de crise, à mon sens, les libertés les plus menacées.
Et de toute façon, cette question du temps est une question importante, puisque le temps de délibération collectif que voulaient à l'instant même William Dab et également Antoine Flahaut et Guillaume Leblanc, il faut se donner le temps. Or, l'épidémie va peut-être plus vite d'une certaine façon que la question du temps, Olga Mahmoudi.
Oui, alors la question de la proportionnalité des restrictions est aussi une question qui s'apprécie, à mon avis, sur ce critère du temps. C'est-à-dire que plus ça dure et plus ça risque d'être disproportionné, et plus on arrive éventuellement à trouver des solutions et plus l'épidémie se résorbe vite, moins il y aura d'atteinte aux droits et libertés.
Guillaume Leblanc. Je suis très rapidement pour aller dans ce sens. C'est très intéressant de voir qu'on continue quand même politiquement à raisonner beaucoup en termes de frontières d'espace, en particulier le rapport Italie-France là-dessus, c'est très révélateur, alors qu'il faudrait raisonner effectivement en termes de temps et passer de l'espace, la question de l'espace, à la question du temps, justement.
William Dab, un dernier mot.
Un dernier mot pour dire que, voilà, je pense qu'une des failles que l'on a, c'est qu'on ne tire pas suffisamment les leçons des épisodes passés. Après le SRAS de 2003, après la menace de pandémie grippale de 2009, nous avions le temps d'organiser cette délibération et de poser ces problèmes qui sont très difficiles à résoudre à chaud.
Surtout qu'on voilà, savait qu'il y en aurait une autre, Guy.
Exactement, tout le monde le savait, c'était inéluctable. Mais voilà, la crise est passée, on passe à autre chose. Et là, je pense qu'il est très important qu'on prenne le temps de tirer les leçons de ces événements.
Merci à tous les quatre. Merci à vous, Olga Mahmoudi. Je rappelle que vous avez co-dirigé un livre sur l'état d'urgence français chez Dalloz.
Varennes.
C'est Varennes. C'était chez Varennes, excusez-moi, oui. Je me suis trompé. Donc, très bonne maison d'édition également pour ce qui est du droit. Merci à vous, Antoine Flahaut, depuis Genève, où vous dirigez l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Merci à vous, Guillaume Leblanc, ainsi qu'à vous, William Dab. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Manon Prissé, Fanny Richer, Hugo Boursier à la technique, Jacques Azubert, et à la réalisation, Alexandre Manzanares.